L'élargissement du corps électoral, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, parle d'un esprit d'équilibre et de justice. Vous l'entendrez dans un instant. Venir en aide au tissu artisanal, la Chambre de métiers de l'artisanat fait aussi des propositions pour éviter l'effondrement des TPE et des PME. Le travail d'une vie, l'historien Géry Delatière a déposé 3 tomes aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Il a retracé l'histoire des bagnards installés dans la région de la Foix. En métropole, 2 réunions par jour pour faire le point sur l'antivirus. Le gouvernement veut éviter les ratés de la prise en charge de la crise Covid. La violence des narcotrafiquants. À Nice, un homme ouvre le feu à la terrasse d'un café, 2 morts. À Décines, près de Lyon, un immeuble a été incendié, 3 morts. Et puis le football français honore ses meilleurs joueurs lors des trophées UNFP. Le Parisien Ousmane Dembélé a été élu par ses pairs meilleur joueur de l'année en Ligue 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Citoyen comme tous les mardis. Bonjour Nicolas Legrand, il sera question cette semaine de délégués de classe.
Oui, effectivement, et notamment au collège, nous recevrons 4 délégués de 6e et 5e du collège de Dimbéa-sur-Mer, Owen, Nino, Alizé et Romane, ainsi que leur CPE, Livia Gervolino. Ils nous parleront de leur journée de formation qui s'est déroulée mardi dernier au Parc Fayard pour devenir de bons délégués de classe, mais aussi plus globalement de leur rôle au pluriel puisqu'ils sont nombreux dans leur collège.
Voilà, on se retrouvera donc pour le magazine Citoyen dès la fin de cette édition. Après les élections en Nouvelle-Calédonie, le dialogue pourra reprendre avec l'ensemble des partis. Déclaration de Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer, qui était hier, Elisabeth Noir, l'invitée de France Info.
Naïma Moutchou a rappelé que les élections provinciales se tiendront le 28 juin, en parlant d'un rendez-vous démocratique important pour redonner de la légitimité aux institutions. Et elle est revenue sur l'ajustement du corps électoral, une question, dit-elle, de justice et d'équilibre.
C'est un exercice démocratique. Nous redonnons la parole aux Calédoniens pour relégitimer les institutions. C'est la première chose. Nous le faisons avec un ajustement du corps électoral, qui n'est pas un bouleversement démographique, qui n'est pas non plus une remise en cause de ce qu'est la tradition jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie. C'est un ajustement.
C'est 11 000 personnes supplémentaires.
Voilà, vous avez des milliers de Calédoniens qui sont nés sur le territoire, ou des conjoints de citoyens calédoniens, qui font vivre le territoire, qui ont fondé leur famille, qui y travaillent, qui ne peuvent pas voter. C'est une question de justice. C'est aussi une question d'équilibre. Et donc, ça n'est pas un grand bouleversement. C'est un point d'équilibre qui a été trouvé. Nous voulons donner la possibilité à ces Calédoniens de pouvoir se prononcer eux aussi, au même titre que les autres, ce 28 juin.
Ce n'est pas une ouverture du corps électoral, mais un ajustement, insiste Naïma Moutchou. Et pour elle, l'objectif pour le gouvernement, c'est d'avancer d'ici la fin de l'année vers un cadre stable et partagé pour le territoire.
Ce qui nous préoccupe, c'est plutôt l'enlisement, c'est le statu quo. Parce que dans un territoire qui fait face à des fragilités, vous avez un chômage qui augmente, vous avez des institutions qui sont affaiblies, vous avez des gens qui perdent leur travail. C'est précisément l'immobilisme qui peut créer demain des tensions, qui peut créer de la crispation. Ce que nous voulons, c'est précisément éviter cela. Voilà pourquoi les élections auront lieu. Voilà pourquoi il faut ouvrir le corps électoral pour donner de la perspective aux Calédoniens.
Et puis la ministre des Outre-mer évoque aussi la suite du processus. Il faut permettre aux Calédoniens de débattre de leur avenir. Et dès le mois de juillet, avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, les acteurs calédoniens seront réunis pour poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel. En attendant, Naïma Moutchou estime que l'accord de Bougival n'est pas acheté à la poubelle.
L'accord de Bougival, il est utile, quoi qu'il arrive, parce qu'il a permis de réunir tous les acteurs, tous, autour de la table, après de longues années, justement, où personne ne se parlait plus. Il a permis de remettre tous les sujets sur la table, tous les sujets institutionnels, l'identité kanak, l'autodétermination, les compétences de l'État de Nouvelle-Calédonie. Donc, tout ça n'est pas acheté à la poubelle. Tout ça, ce sont des fondations utiles et solides pour précisément, comme l'a dit le Premier ministre, reprendre la discussion après le 28 juin, après l'installation du nouveau congrès. L'État, en tout cas, sera au rendez-vous pour renouer le fil du dialogue.
Confirmation donc des élections provinciales le 28 juin et après, l'État sera au rendez-vous pour renouer le fil du dialogue avec les partenaires calédoniens. Le projet de loi organique modifiant le corps électoral entame maintenant son parcours législatif. Le texte va être examiné par la Commission des lois du Sénat le 18 mai au matin. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sera saisi pour avis le 18 mai également. Et par la grâce du décalage horaire, le Sénat l'examinera également le 18 mai dans l'après-midi avant sa transmission à l'Assemblée nationale. Un vote final est d'ores et déjà prévu au Sénat le 21 mai après la convocation possible dans l'intervalle d'une commission mixte paritaire si les 2 chambres du Parlement n'aboutissent pas à un vote à l'identique, un ordre du jour qui a été modifié à la demande du gouvernement.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier. 96% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à l'ouverture du corps électoral provincial aux natifs et aux conjoints. Ils sont 4% à dire qu'ils y sont opposés. Voici notre question du jour. Avec l'antivirus, craignez-vous le retour d'une épidémie mondiale? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Du changement à la tête de Prony Resources qui annonce le départ de son président Thibault Martelin. Selon nos informations, il s'agit d'un choix personnel et familial. Dans un communiqué, PRNC souligne que Thibault Martelin a exercé ses fonctions avec engagement, franchise et transparence et que son implication dans le dialogue et les dossiers stratégiques ont été particulièrement appréciées par les équipes. PRNC salue le travail mené durant sa présidence et le remercie pour son engagement au service de l'entreprise. Après ce départ, PRNC a réuni une assemblée générale pour désigner son successeur, Fatima Lachaise. Actuellement secrétaire général de PRNC, va assurer depuis Paris la présidence pour une période transitoire. On sait d'autre part que des discussions sont en cours avec un éventuel repreneur. Elles restent pour l'instant confidentielles. PRNC assure qu'elle communiquera dès qu'elle le pourra les éléments nouveaux liés à cette reprise. Les pompiers de nouveau mobilisés ce matin à Pointe-Boute. Depuis samedi dernier, ils luttent contre un incendie au dépotoir. Le feu est sous contrôle, mais les pompiers peinent à éteindre les derniers points chauds qui provoquent toujours d'importantes fumées. C'est ce qu'explique Arnaud Banfi, le directeur du CIVOM VKP.
Au cours de la nuit, a priori, il y a des nouveaux points chauds. Enfin, il y a des points chauds qui sont ressortis avec l'absence d'action pendant la nuit. Du coup, ce matin, notre technicien a constaté une reprise un petit peu des fumées par rapport à la situation d'hier soir. Donc, du coup, il a été décidé d'engager les pompiers de nouveau avec des engins de terrassement, donc une pelle à chenille et un bulldozer pour essayer de traiter les derniers points chauds et essayer, l'objectif étant d'éteindre complètement les derniers foyers au cours de la journée. Au niveau des fumées, c'est sans comparaison avec ce qu'il y a eu ce week-end. On a quand même un feu qui a énormément diminué, qui a été traité pendant 3 jours ininterrompu. Donc on n'est quand même pas sur les mêmes niveaux de fumée. Il peut rester quand même des fumées persistantes, notamment la nuit ou sur le petit matin au moment où le vent tombe et la fraîcheur arrive. Donc du coup, la fumée stagne un petit peu dans la vallée. Mais voilà, c'est vraiment notre objectif prioritaire, là, c'est d'éteindre définitivement et d'éliminer les dernières fumées.
Donc d'ici ce soir, ça devrait être maîtrisé?
On espère. En tout cas, on met tout en œuvre pour que d'ici ce soir, les riverains autour puissent de nouveau dormir les fenêtres ouvertes.
Arnaud Banfi, le directeur du CIVOM VKP, interrogé par Kelinda Boiscou. Avant de marquer une première pause, à l'approche du pont de l'Ascension, le gouvernement rappelle que le calendrier administratif 2026 arrêté par le gouvernement ne prévoit pas de week-end prolongé. Contrairement aux usages observés certaines années pour l'Ascension, le 14 juillet est la fête de la citoyenneté. Il informe en conséquence que l'ensemble des services et directions du gouvernement seront ouverts vendredi prochain, mais aussi le 15 mai, mais aussi le lundi 13 juillet et le vendredi 25 septembre. Il est 11h38, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour la fête des mères, faites fondre son cœur avec Maison Thirier. Découvrez notre rose glacée à 3490 francs au lieu de 3990 francs. Sorbet fraise framboise, crème glacée vanille bourbon et meringue croquante. Un moment magique, édition limitée. Offre valable jusqu'au 31 mai dans la limite des stocks dans vos magasins Thirier et stations mobiles partenaires. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW mis en circulation entre 2000 et 2019, votre véhicule, selon son année et son modèle, est peut-être concerné. Réalisé exclusivement dans les ateliers de Prestige Motors, de rue Edmond Arbulo à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 44 30 00 ou par email à reception.prestige@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La CMA fait des propositions pour sauver les PME et les TPE. La Chambre de métiers et de l'artisanat appelle le gouvernement à prendre des mesures fortes pour sauver l'artisanat calédonien qui est à bout de souffle. Selon la Chambre, 85% des artisans disposent d'une trésorerie inférieure à 3 mois de charge. Nous en avons parlé ce matin avec la présidente de la CMA, Elisabeth Rivière, qui était notre invitée, Nicolas Legrand.
Oui, la Chambre consulaire estime que les mesures proposées sont insuffisantes pour enclencher un effet rebond. Elisabeth Rivière dit soutenir les propositions de mesures d'urgence formulée la semaine dernière par le monde économique. Mais pour elle, il faut aller encore plus loin. Elle demande donc des mesures spécifiques pour les 11 000 entreprises artisanales du territoire.
On n'a pas l'habitude de faire cavalier seul parce que c'est en groupe qu'on réussit à apporter les meilleures propositions. Nous ne sommes pas en désaccord avec le reste du monde économique. Bien au contraire, nous étions favorables à leurs mesures, mais nous estimions qu'elles n'étaient pas assez poussées pour répondre aux besoins spécifiques des très petites entreprises artisanales. Nous soutenons l'ensemble des mesures qui ont été portées par le monde économique et nous souhaitons qu'ils nous appuient pour ces très petites entreprises artisanales.
Et la CMA propose donc 5 mesures qu'elle qualifie de choc pour soutenir les entreprises, notamment un carburant professionnel à prix réduit, une aide financière aux entreprises accueillant des alternants, ainsi que des exonérations de patentes pendant 2 ans, une exonération d'impôts sur les sociétés pendant 2 ans également pour les entreprises avec moins de 10 salariés dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 25 millions, et enfin une exonération totale du RUAM également pendant 2 ans.
Nous demandons et nous portons la possibilité de ne pas reporter les échéances du RUAM, parce qu'à un moment, il faudra quand même les payer, et on sait très bien qu'il n'y a pas les moyens de les payer, mais de mettre zéro RUAM pour l'ensemble des entreprises artisanales, et notamment des entreprises artisanales ayant moins de 10 salariés. Il faudra bien trouver des financements pour toutes les mesures que l'on propose, c'est qu'il y ait un fort soutien de l'État. L'État est intervenu avec un dispositif de solidarité républicaine dans plusieurs secteurs au niveau des collectivités. Aujourd'hui, on a besoin que les financements qui sont portés par l'État et notamment par la MINC puissent venir un peu plus en soutien au monde artisanal. Je fais appel à l'ensemble des politiques de la Nouvelle-Calédonie et au plus haut niveau de l'État, on a vraiment besoin de ce soutien pour les très petites entreprises artisanales qui permettent à de nombreuses familles de vivre aujourd'hui.
Et pour soutenir l'économie, la CMA souhaite aussi redonner du travail aux entreprises et former la jeunesse. Pour ça, elle compte reconstruire son centre de formation pour les apprentis qui a été ravagé par les flammes lors des émeutes de mai 2024.
Ce centre pourrait sortir, on l'espère, d'ici 3 ans. Nous avons réussi à finaliser l'ensemble des financements. Nous allons prochainement avoir une commission d'appel d'offres pour dépouiller tout ce qui va toucher à la maîtrise d'ouvrage. Et dans un second temps, les appels d'offres seront lancés pour la reconstruction de ce CFA qui est fortement attendu par les entreprises du bâtiment. Mais nous allons, dans ces appels d'offres, essayer de faciliter la réponse des entreprises artisanales pour qu'elles puissent obtenir aussi un maximum de lots.
Et face aux difficultés des artisans, la CMA compte aussi lutter contre les activités non déclarées qui se multiplient en raison de la crise économique. Un travail illégal qui représente une forme de concurrence déloyale qui pénalise les entreprises artisanales, je le disais. Une interview d'Elisabeth Rivière, présidente de la CMA, à retrouver sur notre site internet le www.rrb.nc.
Et de son côté, la FEDE s'oppose au moratoire fiscal et social du monde économique. Le syndicat a écrit au gouvernement et à Amaury De Kloot, le directeur de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie. La FEDE partage le constat dressé par les organisations patronales concernant la gravité de la situation et estime même que certaines mesures avancées comportent à court terme des effets positifs indéniables. Toutefois, la FEDE craint des effets d'aubaine avec de l'argent public utilisé pour soutenir l'activité sans contrepartie pour l'emploi ou la consommation qui font peser un risque sur la protection sociale. La CCI célèbre un anniversaire en 2026, celui des 40 ans de présence de l'EGC Business School sur le territoire. 860 jeunes Calédoniens ont été formés au sein de cette école depuis 1986, Léana Colombo.
Chef d'entreprise, cadre dans de grandes sociétés ou encore haut responsable dans les administrations, l'EGC a au fil des ans formé de nombreux Calédoniens. Isabelle Chamorro, membre du gouvernement, ou encore Jean-Christophe Niotou, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche et maire de Farino, ont eux-mêmes suivi cette formation. Une qualité d'enseignement reconnue puisque l'école fait partie du top 3 parmi tous les établissements EGC situés en métropole et dans les Outre-mer. Frédéric Pentecoste, élu à la CCINC en charge de la formation.
C'est la première école de commerce du territoire. Elle a été créée à l'initiative du président Arnold Delay. Énormément d'élèves calédoniens qui sont passés par cette école. Et l'avantage de cette école, qui est passée de Bac plus 2 à Bac plus 3 au fil des années, c'est qu'elle est innovante et on a pu aujourd'hui créer des personnes formées qui sont parfaitement adaptées aux besoins des entreprises du territoire. Et aujourd'hui, c'est véritablement un label qui est reconnu. Et notamment, on vient d'être labellisé en 2026 BSIS. Et notamment, on est reconnu comme étant une école qui est innovante et qui est contributrice à l'économie sociale et environnementale d'un pays.
113 étudiants sont formés chaque année au sein de l'EGC. L'objectif serait de doubler ses effectifs et de passer à plus de 200 élèves par promotion. Un parcours qui peut intéresser beaucoup de Calédoniens grâce à sa souplesse de programme. La sportive de haut niveau, Loane Ville, a bénéficié de ces aménagements pour poursuivre ses études et l'athlétisme.
Ils se sont adaptés à moi. J'avais questionné d'autres parcours parce que j'avais pour point d'honneur de continuer l'athlétisme. Et sur d'autres parcours, on m'avait dit que c'était pas possible. Et là, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance et on a pu créer un parcours spécialement pour continuer à côté le sport. Donc, ils m'ont beaucoup aidée et j'en suis très reconnaissante. Je me suis découverte, j'ai grandi, j'ai appris, je me suis relevée dans certaines épreuves difficiles de par l'école et puis en même temps les performances, les contre-performances. Donc ça a été vraiment enrichissant sur tout un ensemble et je suis très heureuse de ce parcours.
Pour cette année anniversaire, l'EGC proposera plusieurs temps forts au travers de tables rondes et conférences, mais aussi un événement inédit pour la jeunesse calédonienne, l'Arena Challenge, un tournoi sportif interlycée à destination des premières et terminales qui se déroulera le 15 juillet au stade Pentecôte à Nouméa, un moment de cohésion co-organisé par l'UNSS. Pierre-Jean Roumigous, directeur de l'Union nationale du sport scolaire sur le territoire.
C'est la première fois qu'on regroupe tous les lycées ensemble sans avoir les collèges en même temps. Donc c'est un événement qui se voit à la fois festif, qui fasse partie du parcours découverte, qui fasse partie du parcours d'orientation des élèves, qui leur donne des idées par rapport à une orientation possible sur le territoire, qui donne aussi un enjeu et des possibilités aux jeunes athlètes de haut niveau de participer également à une formation tout en étant dans leur passion également. Donc tout ça, c'est un triptyque qui est intéressant au niveau du vice-rectorat, au niveau de l'UNSS, et c'est pour ça qu'on participe. Voilà, c'est un souffle, c'est un petit peu un bol d'air pour eux, c'est permettre d'allier l'utile à l'agréable et faire en sorte que ce soit une très belle journée, un très bel événement et que les jeunes puissent enfin respirer et se dire bon voilà, on a un côté positif, demain est à construire et rien n'est bloqué, c'est à nous de jouer.
Les 21 lycées de Calédonie ont jusqu'au 25 juin pour s'inscrire sur le site de l'UNSS et noter qu'une partie des frais peut être prise en charge par la CCI si les établissements en font la demande.
Une page d'histoire maintenant pour poursuivre ce journal. Géry Delatière a remis ce matin aux archives de la Nouvelle-Calédonie les trois tomes d'un ouvrage qu'il qualifie, Lionel Sabot, de travail d'une vie.
Une terre pour un crime, voilà comment s'intitule cet ouvrage qui a donc été remis officiellement ce matin aux archives de Nouvelle-Calédonie. Travail extrêmement exhaustif concernant un pan de l'histoire avec un grand H dans une région extrêmement précise de Nouvelle-Calédonie. Écoutez Géry Delatière.
En toute modestie, c'est la mémoire de la colonisation pénale sur les villages de Farino et La Foy, c'est-à-dire à l'époque, ce que l'administration coloniale appelait l'arrondissement d'Ouraille, à partir de Terreba, qui englobait donc les actuels villages de Farino, de La Foy et de Saramia. Et donc cet ouvrage traite de la colonisation pénale à travers deux articles de la loi du 30 mai 1854 qui a permis l'envoi de forçats en Guyane et en Nouvelle-Calédonie sous le Second Empire. Ces articles qui permettaient, pour les éléments les mieux notés, la possibilité d'être mis en concession sur une terre. Il est réparti en trois tomes. Hein. Mm-hmm. Les deux autres tomes traitent cas par cas de tous les concessionnaires avec leur origine. Il y a une carte des départements de France d'où ils venaient. Les mariages avec des femmes condamnées libres, enfin, c'est un ouvrage complet sur la colonisation pénale dans cette région du territoire.
Géry Delatière qui a travaillé pendant de très nombreuses années sur cet ouvrage que l'historien qualifie donc de travail d'une vie. Un ouvrage qui, pour des raisons extrêmement précises, ne sera pas disponible en librairie.
Je ne peux pas le diffuser en librairie, étant donné que j'ai traité les procès. Hein. J'ai développé les procès d'assises. C'était des grands criminels hein, que la France du Second Empire et de la Troisième République a expédiés à l'autre bout du monde pour préserver les descendants, la mémoire des descendants. Je ne veux pas le diffuser en librairie. Par contre, je veux qu'il soit disponible aux chercheurs hein, pour la connaissance de l'histoire. Je pense que beaucoup de Calédoniens ne connaissent pas encore, ne maîtrisent pas encore leur histoire. Et c'est pour ça que je laisse aux archives. Je vais sûrement laisser un au à la bibliothèque universitaire aussi, de façon à ce que les chercheurs, les jeunes, c'est mon but, laisser quelque chose, un outil de recherche pour les jeunes. Voilà, c'est pour ça.
Une terre pour un crime, un ouvrage de 3 tomes signé Géry de Latière qui sera donc consultable aux archives de la Nouvelle-Calédonie.
11h50, une nouvelle pause. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde et nous verrons que le gouvernement s'organise face au cas d'antavirus.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journée, l'actualité en métropole avec Jean-François Bodin.
Évitez à tout prix les tergiversations et les retards et les manquements qui avaient marqué le début de la gestion de la crise Covid. Le gouvernement s'organise pour faire face au cas d'antavirus des passagers du MV Ondus qui ont tous été rapatriés en France. Sébastien Lecornu a réuni des épidémiologistes et il a annoncé dans la foulée 2 réunions quotidiennes interministérielles pour suivre le dossier. Tous les Français qui étaient à bord du bateau contaminé sont donc rentrés et ils sont soumis à un protocole sanitaire particulièrement strict. Yasmina Katou.
Les ex-croisiéristes resteront hospitalisés jusqu'à nouvel ordre à l'hôpital Bichat à Paris, spécialisé dans la prise en charge des maladies infectieuses. Les patients sont isolés dans des chambres où la pression de l'air est modifiée pour éviter les transmissions au personnel soignant. Les ex-passagers de la croisière resteront au moins 15 jours à l'hôpital, car l'une des personnes rapatriées a été testée positive. Elle est en ce moment en réanimation. Un isolement de 2 semaines essentiel, dit l'épidémiologiste Philippe Amouyel.
La particularité avec ce virus, c'est que le temps d'incubation est de l'ordre de 1 à 2 semaines. Et donc, il est vraiment important d'isoler ce groupe de personnes, car la probabilité encore de surinfection était importante.
Le protocole a été renforcé pour les 22 cas contacts. Parmi eux, 8 Français ont voyagé sur le même vol qu'une Néerlandaise contaminée par l'antivirus. Ils étaient en quarantaine chez eux, mais vont être placés en isolement en milieu hospitalier. 14 autres Français se sont retrouvés dans le même avion que cette femme avant qu'elle ne soit débarquée à cause de ses symptômes. Eux doivent se signaler au plus vite aux autorités sanitaires pour aussi être placés à l'isolement.
L'actualité en métropole, marquée aussi par la violence liée au narcotrafic. À Nice d'abord, un homme arrivé en trottinette a ouvert le feu en pleine journée sur des clients assis à la terrasse d'un café dans le quartier sensible des Moulins. Il était armé et cagoulé. Il est reparti en trottinette et a ensuite été récupéré par une voiture dont la carcasse a été retrouvée calcinée. Le bilan est lourd, 2 personnes tuées, 6 autres blessées, dont 3 sont dans un état grave. Probablement des victimes innocentes, a expliqué le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.
On a des personnes âgées de 23 à 57 ans. On peut craindre, compte tenu de l'heure, qu'on puisse avoir parmi les victimes des personnes innocentes sans lien avec le trafic de stupéfiants.
Une enquête pour assassinat en bande organisée a été ouverte et la piste privilégiée par les enquêteurs est une intimidation pour garder un territoire de deal. La guerre contre le narcotrafic ne peut pas se solder par une défaite de la République, a réagi le maire de Nice, Éric Ciotti.
Cette situation est insupportable, elle n'a que trop duré. Il faut enfin des actes forts, puissants. Autrement, ça voudra dire que les trafiquants font ce qu'ils veulent sur le territoire de la République. Aujourd'hui, c'est les Moulins. Demain, ça sera un autre quartier. Demain, ça sera une autre ville. Et puis, ça sera le pays tout entier.
La violence liée au narcotrafic, c'est aussi ce nouvel immeuble incendié à Décines, dans la banlieue de Lyon. 3 résidents sont morts, dont un homme qui s'est jeté du 7e étage pour échapper aux flammes. Il s'agit là aussi fort probablement, explique Jean-Luc Bougeon pour Europe 1, d'un nouvel épisode d'une terrible guerre de territoire.
Qui aurait démarré il y a plusieurs semaines, le 24 avril dernier par exemple. Une mère de famille qui rentrait du cinéma le soir avec ses enfants avait déjà été blessée au mollet par une balle perdue à 2 pas de son immeuble. Un échange de tirs nourri avait alors eu lieu. C'était le début de cette guerre de territoire où d'anciens dealers de ce quartier du Prenet, revenus récemment, cherchent semble-t-il à reprendre la main sur le trafic de drogue. Plusieurs incendies d'appartements ont eu lieu depuis 3 semaines, sans doute des actes d'intimidation, jusqu'à celui d'hier soir qui a fait 3 victimes, dont un homme qui s'est jeté du 7e étage en voulant ont échappé aux flammes. L'hypothèse criminelle n'est pas exclue, a expliqué tout à l'heure Antoine Guérin, préfet délégué à la sécurité.
L'origine intentionnelle de ces feux est possible parce qu'il y a eu plusieurs départs de feu. On ne l'a jamais caché qu'il y avait des rivalités entre des banques de narcotrafiquants. Eh bien nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces gens soient interpellés et déférés à la justice. On ne laissera pas le dernier mot aux narcotrafiquants.
Et pourtant, ce quartier est devenu impossible à vivre selon Claude, qui y habite depuis des années.
Moi, je veux partir de là. Je repoussais tout le temps l'échéance, mais moi, je ne peux plus rester là-dedans. Il y a beaucoup de trafic de drogue, les voitures incendiées ou des agressions et tout comme ça. Ça fait quelques mois, oui, c'est atroce. Hein. Des coups de fusil, surtout les week-ends. Ce quartier, c'est l'enfer maintenant.
Ce soir, la préfecture annonce qu'une centaine de CRS vont être déployés pour sécuriser le quartier.
Jean-Luc Bougeon pour Europe 1. Et puis, les faits divers en métropole, c'est aussi ce homejacking dont Michael Youn et sa famille ont été les victimes dans les Bouches-du-Rhône. Il était avec sa femme et ses deux enfants lorsque deux hommes ont pénétré chez lui et lui ont demandé d'ouvrir le coffre. Il n'y a pas eu de violence physique. Les malfaiteurs sont repartis avec un butin estimé à 100 000 euros, soit 12 millions de francs. En liquide, bijoux et montres de luxe. 11h56, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive et notamment les trophées UNFP qui ont été remis ce matin. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
C'est bon, sac poubelle changé.
Déjà ?
Eh ouais, c'est normal, c'est les sacs poubelles Pratisac.
Ah ?
Les liens coulissants Pratisac, tu tires et hop.
Ah ouais, fini les nœuds.
Pratisac, les sacs avec liens coulissants, solides, pratiques, de 30 à 120 litres. Pratisac, tu tires et c'est dans le sac.
Bureau Vallée, mercredi pédagogique, direction Bureau Vallée, Magenta. Profitez de moins 20% sur les rayons beaux-arts, loisirs créatifs et librairies. Peinture, dessin, lecture, activités créatives, partagez de bons moments en famille sans vous ruiner. Offre valable chaque mercredi pédagogique chez Bureau Vallée Magenta.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Le sport est donc du football, je vous le disais. C'était ce matin la cérémonie des trophées UNFP, Lionel Sabot.
Oui, alors les trophées UNFP, c'est un peu comme la cérémonie des Césars à deux différences près. Pour cette cérémonie des trophées UNFP, on connaît les acteurs et on n'hésite pas à récompenser les blockbusters qui font plusieurs milliers d'entrées. Le palmarès de cette 34e cérémonie donc des trophées UNFP, sans surprise, c'est Ousmane Dembélé, le Parisien, qui a été élu par ses pairs meilleur joueur de Ligue 1. Il a également reçu le trophée Juste Fontaine du plus beau but de Ligue 1. Le meilleur espoir de la Ligue 1, c'est encore un Parisien, sans surprise là non plus, Désiré Doué. Le meilleur gardien de la saison est Robin Risser, c'est le gardien de but du Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens qui voit son entraîneur Pierre Sage bien recevoir le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. Sur la Ligue 2, le meilleur joueur de la deuxième division, c'est le Stéphanois Zourico Davitashvili. On notera que le meilleur entraîneur de Ligue 2. Et c'est Stéphane Dumont, l'entraîneur de Troyes, qui a été sacré champion de Ligue 2, qui remontera donc directement en Ligue 1 la saison prochaine. Chez les dames, la meilleure joueuse de Première Ligue, c'est Melchi Dumornay, qui joue à l'Olympique Lyonnais. Et puis, dernier prix remis ce matin, celui de meilleur joueur français à l'étranger. Il revient à Michael Olysee, qui joue au Bayern Munich, qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions.
Le tennis, c'est pas de soirée de gala pour Loïse Boisson. La Française a enregistré une nouvelle défaite. C'était au tournoi WTA 125 de Parme.
Oui, Loïse Boisson, que l'on va bientôt rebaptiser la supernova du tennis français. Une supernova, c'est une étoile qui explose et qui brille quelques jours et que, après, on a bien du mal à observer. La Française a explosé et brillé. Souvenez-vous-en, c'était il y a un an à Roland-Garros. Depuis, pas plus rien, ou presque. Pourtant, tête de série numéro 1 dans ce tournoi, la jeune Française s'est inclinée devant la Tchèque Dominika Salkova, 117e joueuse mondiale. Défaite inquiétante à quelques jours, tiens-tiens, de Roland-Garros. La dernière victoire en tournoi de Loïse Boisson remonte au 27 septembre dernier.